Plan Large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan Large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, R comme Rapneau, Jean-Paul Rapneau, avec Jean-Paul Rapneau en personne et Charlotte Garçon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Jean-Paul Rapneau, l'obsédé de la vitesse qui prend son temps, cinéaste rare à double titre, seulement 8 longs métrages en 50 ans, de La Vie de Château en 1964 à Belle Famille en 2015, mais chaque film, comme chez Stanley Kubrick, est le fruit d'une longue maturation, d'une rêverie, d'une écriture ciselée au long cours et couche par couche, et d'une économie du récit qui, du scénario au tournage jusqu'au montage, travaille le rythme à l'intérieur même du plan, pour insuffler un dynamisme qui est sa marque de fabrique. Cinéaste rare encore, Jean-Paul Rapneau, parce que il a su tirer du cinéma américain qui l'a marqué enfant et de son attachement à la France profonde des leçons qui ont servi une ambition peut-être plus rare encore, surtout de ce côté de l'Atlantique, créer du divertissement populaire avec le plus haut niveau d'exigence. Le public et la critique ne s'y sont pas trompés, qui ont plébiscité tous ses films jusqu'au triomphe international que fut Cyrano de Bergerac en 1990, mais comme ses personnages, toujours ailleurs, toujours en fuite, Jean-Paul Rapneau fait aussi toujours retour. 6 de ses films, La Vie de Château, Les Mariés de l'an 2, Le Sauvage, Tout Feu Tout Flamme, Cyrano de Bergerac et Le Hussard sur le Toit, sont réunis en un beau coffret Blu-ray et DVD dans leur version restaurée. On peut également trouver les 3 derniers en individuel, en attendant la ressortie en salle de la version restaurée de Cyrano de Bergerac. Ce sera le 26 octobre, et puis d'autres films de semaines après, et puis surtout l'hommage que lui rendra la Cinémathèque française avec une intégrale de ses films à partir du 24 octobre. Il ne nous en fallait pas plus à Plan Large pour inviter sur notre plateau celui chez qui le cinématographe revient à sa signification première, l'écriture du mouvement. En fin d'émission, Charlotte Garçon reviendra, elle, sur un film qui lui aussi, comme dans une mise en abîme, fait sans cesse retour, Le Vertigo d'Alfred Hitchcock, œuvre dont le Forum des images à Paris présente en ce moment avec Vertigo Replay, nombre de relectures avouées ou non. Mais avant cela, retour là où tout a commencé pour notre invité, comme pour Adam et Ève au paradis, c'est une histoire de pommes.
Marie, on nous a encore pris des pommes. Hier 12, avant-hier 15, aujourd'hui 7, 54 en une semaine. Trouves-tu normal qu'on nous vole 54 pommes en une semaine? Enfin! C'est tout de même monstrueux, ça. Nous sommes chez nous, à l'écart des routes. Nous connaissons le jardinier. Peux-tu m'expliquer? Marie, tu m'écoutes.
Tu m'accuses de voler des pommes?
Je ne parle pas de toi, je dis que des pommes disparaissent. Donc on les prend. Donc il y a quelqu'un qui les prend.
C'est tout?
Comment c'est tout? Mais enfin, c'est pas rien, tout de même, des Calvilles. Les plus demandés.
Je m'en moque.
Très bien, on nous vole et tu t'en moques.
Oui, j'en ai par-dessus la tête de tes poires, de tes pommes, de ton miel et de tes abeilles. Tes récoltes, je m'en fous.
Écoute, Marie, quelle idée de te fâcher comme ça? Tu ne fais pas une histoire pour 54 pommes. Mais il y a un mystère, Pomme. Tu comprends?
Quand partons-nous à Paris?
Pardon?
Tu as très bien entendu. Quand partons à Paris?
Non, ne saute pas d'un sujet à l'autre. Je te parle de pommes.
Et moi, je te parle de Paris. Voilà 2 ans que nous sommes mariés. 2 ans que tu retardes. Que tu me trompes.
Moi, te tromper?
Parfaitement. Tu m'as fait miroiter la belle ville, les restaurants, les théâtres, ton appartement de la rue Vanneau, et puis rien. Rien n'arrive jamais. Eh bien, il y a un nom pour ça. L'escroquerie.
L'escroquerie.
Et toutes mes robes, à quoi elles vont me servir? Non, mais ça ne se passera pas comme ça. Tu vas me signer un papier, pas plus tard que tout de suite.
Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui?
Aujourd'hui, j'en ai assez. Allez.
Bonjour Jean-Paul Rapneau.
Bonjour.
Vous aurez reconnu, comme tous nos auditeurs, le début de La Vie de Château. Ça commence comme ça et ça commence tout de suite très vite. Chez vous, là, dans cet extrait, on a déjà vu passer 2 séquences enchaînées à une vitesse incroyable, avec cette vitesse extraordinaire de parole de Catherine Deneuve.
Oui, c'est ça, le débit. Vous dites le début, je dis le débit.
C'est le début du débit. Vous l'avez dirigé un peu comme Hawks faisait dans La Dame du Vendredi avec Rosaline Russell. C'est-à-dire, elle parle vite, déjà, Catherine Deneuve, mais alors vous la faites parler encore plus vite.
Oui, c'est ça. Rosaline Russell, dont on dont Howard Hawks chronométrait les répliques en disant peux-tu le faire en moins de deux secondes de moins. Et moi, c'est mon premier film. Et en fait, j'avais pas un plan de bataille. En fait, j'ai découvert ce que je voulais en faisant le film, vers quoi je voulais aller. Et il y a eu cette rencontre avec Catherine Deneuve, que je ne connaissais pas, et qui, la première fois que je l'ai vue, pour lui parler du film, qui me disait, il faudra m'excuser d'une chose, c'est que, enfin, j'espère que ça ne vous gênera pas. C'est-à-dire que je parle très vite, peut-être trop vite, et c'est ça qui vraiment peut vous gêner. Ah non, très bien, non, mais. Et en fait, au fond, elle parlait très vite, naturellement, parce que disait-elle, elle était d'une famille de quatre filles, et. De quatre filles ou de trois? Et. De quatre. Attendez, pardon, je vais dire des bêtises. Et que dans cette famille, comme c'était nombreux, celle qui parlait le plus vite et celle qui se faisait entendre le mieux. Donc il fallait. Ça l'a amené donc à parler avec ce débit qui était le sien, et au fond qui est devenu celui de mes films. Au fond, elle a donné le là aux actrices qui ont suivi.
Elle a donné le tempo. Alors ce qui est très agréable quand on revoit vos films dans une optique de radio, c'est qu'on les écoute beaucoup, et il y a chez vous ce rythme tout de suite, ce tempo qui est donné par Catherine Deneuve, mais aussi cette alliance des voix. C'est-à-dire qu'il y a un bonheur inouï, et en particulier dès ce premier film, c'est la concordance, l'harmonie et la disharmonie parfois des voix. Alors on a Catherine Deneuve, mais on a entendu aussi à l'instant Philippe Noiret, et puis il y aura Pierre Brasseur et Marie Marquet, et extraordinaire. C'est le grain des voix, c'est toujours quelque chose qui vous a...
Ah oui. Enfin, effectivement, je fais du cinéma parlant, et dans le cinéma parlant, il y a une musique à plusieurs, enfin, jouée à plusieurs instruments, et quand ces instruments s'accordent bien, comme dans ce film-là, alors... écoutez, peut-être je les ai choisis. Non, c'est un peu comme cela, comme j'ai dit, par hasard, quoi, au fond. Mais en fait, à ce moment-là, je n'imaginais pas que l'ex-tragédienne du français, qui était Marie Marquet, allait avoir à parler avec cet oiseau, qui était Catherine. Et on reparlera tout à l'heure de Cyrano, je pense. Et là, où il y avait 40 acteurs. Et le travail, c'était ça. Alors, c'était un grand orchestre. Et encore une fois, là, il y a l'harmonie générale des voix qui crée le charme.
Et alors, ce qui frappe aussi dans cette première aventure dans le cinéma, et qu'on retrouvera souvent chez vous, c'est l'importance des lieux, de cette maison qu'on va explorer, enfin ce château branlant qu'on va explorer de fond en comble, très littéralement, et qui se trouve... Effectivement, c'est une maison à la campagne. Il faudrait peut-être faire toute une émission sur cette génération de cinéastes qui sont apparus au même moment que la Nouvelle Vague, mais qui n'en faisaient pas partie. Et Alain Cavalier, votre camarade de régiment et co-scénariste du film, Philippe de Broca, Claude Sauté et Louis Malle, qui était le premier qui avait commencé. Et quand vous faites La Vie de Château, c'est en quelque sorte un film contre un certain type de cinéma qui se faisait à l'époque.
Oui, alors effectivement, c'est tout ça, c'est le début des années 60, c'est effectivement l'apparition de la Nouvelle Vague. Alors, elle était apparue à la fin des années 50, avec le beau Serge qui lance l'opération Les Ex des Cahiers, dont nous ne faisions pas partie, bien que nous les connaissions. Et alors, à ce moment-là, arrive pratiquement chaque semaine un nouveau premier film. Donc, constate-moi que, au fond, tous les films, la plupart de ces films, sauf celui de Chabrol, justement, Le Beau Serge, se passe à Paris, se tourne à Paris, et très souvent dans le Quartier Latin. Mais tous les films ne peuvent pas se ressembler. Moi, je savais dès le départ que quand je passerais à l'action, ça se passerait en province. Parce que je suis un garçon de province.
D'Auxerre,
donc un bourguignon. Moitié suisse, moitié bourguignon. Ça existe ? Oui, moi. Mon grand-père était suisse-allemand. Et on me faisait remarquer que le grand-père de Ravel était... Pourquoi je dis ça ?
C'est quand je parle du rythme.
Bon, alors, bref, évidemment, tout est parti d'une maison que j'ai repérée un jour en Bretagne. Et Je pensais que si je faisais quand je ferai un premier film, ce sera là que cela se déroulera. Et la maison, on la retrouve dans beaucoup de mes films qui suivent. Oui. Peut-être parce que j'ai passé 18 années de ma vie, depuis l'enfance, depuis la naissance, jusqu'au départ pour Paris, après le bac. Et parce que c'était dans une maison trop grande, justement, qui était une maison à louer, et que mon père bravement avait louée. Et tout ce qui s'est passé dans cette maison, toute la découverte de la vie au fond gelée, a eu lieu dans cette maison. Enfin, les drames, les malheurs, la sexualité, tout ce qui compte, quoi. Et voilà, donc la maison. La maison.
Ah, madame, vous voilà. Ah. C'est décidé, je vous emmène.
Vous n'y pensez pas?
Je ne pense qu'à cela.
Arrivons, faites-moi.
Partons, l'heure est venue.
Oh, mais non.
Mais votre bohémienne l'avait prédit. Vous serez princesse grâce à moi.
Ah.
Non, mais dites-moi, vous.
Monseigneur. Qu'est-ce que t'as fait?
Laisse-le donc.
Mais sauve-toi.
Réveille-toi, ma pauvre Charlotte, cesse de rêver. T'es prince, t'es marquis, c'est de l'histoire ancienne. T'es tombé sur les derniers. Et en plus, t'as ni l'un ni l'autre.
Si.
Lequel?
Ça te regarde pas.
Oh, tiens, tu me fais pitié. Ah. Regarde, monsieur.
Où est votre épée?
La voilà, citoyen.
Par Saint-Louis, en joie. Ah.
Celle très virevoltante et rythmée, là encore, des Mariés de l'an 2. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'image, je décris Jean-Paul Rapneau écoutant son film. Il se balance tout son corps au rythme de l'extrait. Il bat la mesure avec son doigt. Et ça, c'est ce que vous faites sur les tournages.
Oui, c'est ça. Je me balance. Le swing. C'est-à-dire, le swing, on balance, c'est sûr. Et quand une scène ne se balance pas, je le sens, je ne bouge plus. Je ne bouge plus et c'est inquiétant pour tous ceux qui me connaissent et qui m'entourent. Depardieu, avec qui j'ai tourné le film dont on parlait tout à l'heure et qui s'arrêtait quand je ne bougeais plus, au milieu de la prise. Gérard, qu'est-ce qui se passe? Tu ne bouges plus. Donc il avait compris que ça ne me plaisait pas. Et effectivement, il avait raison. Quand je bouge plus, il y a quelque chose qui grince. Non, mais là, ce qui est dans cette scène des Mariés de l'an 2, oui, ça c'est vraiment le talent, le génie de Michel Legrand, c'est que moi je voulais dans cette séquence-là faire une sorte de petit opéra bouffe où l'action et le dialogue se combinent dans un certain rythme et lui était ravi de cela. Alors j'ai dit, mais alors il faut le composer la musique avant, puis on jouera. Non, jouez, enfin faites la scène, tournez là, c'est ce qu'on a fait avec Belmondo, Patrick Préjean, Michel Auclair. Ah madame. J'essaie d'imiter Auclair, hein, madame. Et puis ensuite, donc c'est ça, c'est sur une scène tournée, il a fait la musique ensuite en fonction de chaque geste, magnifiquement, quoi. Voilà. Enfin, pour moi, un film, c'est une musique, enfin, c'est une musique que je recherche. Et là, c'est ça, elle a été tournée avant, la musique est venue ensuite et l'ensemble fait l'opéra bouffe qu'on vient d'entendre.
Voilà, avec cette marqueterie extraordinaire, parce que la musique de Michel Legrand se glisse exactement où il faut. Il y a aussi une musique des bruits dont on a l'impression qu'ils sont conçus là encore dès le départ, parce qu'il faut expliquer la méthode Rapneau. Si on a cette impression de fluidité et presque de spontanéité, en fait, c'est comme dans la comédie musicale, tout est écrit, tout est prévu au départ. Votre film, vous l'avez complètement en tête avant même le tournage. Hitchcock disait le film est fait, il n'y a plus qu'à le tourner. Vous, c'est un peu la même chose.
Ben, tout à l'heure, vous avez parlé de l'écriture du mouvement, mais effectivement, ça commence toujours, tout commence toujours par le crayon et le papier. Mais enfin, ça s'écrit, ça se ressent. le balancement dont vous parlez, enfin, quand je travaille avec mes amis co-scénaristes, ils se plaignent. Arrête de bouger. Non, mais c'est comme ça. Il y a une écriture, ensuite il y a... Enfin, bon, comme tous les films, enfin, j'ai pas une méthode particulière. Enfin, j'ai quand même une méthode.
Alors, et ce qui nous frappe aussi, en revoyant Les Mariés de l'an 2, c'est que vous avez la grande star de l'époque, qui est Jean-Paul Belmondo, l'homme qui fait ses cascades lui-même. Et alors, vous montrez pas tout. C'est-à-dire que quand le personnage qui s'appelle Nicolas Philibert, d'ailleurs, hein, c'est pas le documentariste bien connu, c'est le Nicolas Philibert des Mariés de l'an 2, quand il s'évade, par exemple, mais vous n'avez pas montré l'évasion. C'est-à-dire, il y a un art de l'ellipse aussi chez vous et de l'économie du récit. Là encore, on parlait de Hawks tout à l'heure. Là, c'est une leçon complètement de Lubitsch. Enfin, on n'a pas besoin de tout montrer. Le spectateur s'invente tout aussi.
Oui. Enfin, on peut dire que j'ai découvert le cinéma à la fin de la guerre et je n'avais pas le droit d'aller au cinéma avant. Et finalement, la guerre se termine, les Américains arrivent. Oui. Et en fait, le cinéma américain arrive. Et au fond, les premiers films que j'ai vus sont des films américains Et alors, d'ailleurs, j'ai pensé en entendant les épées tout à l'heure, les bruits des épées dans la scène du duel, mais le premier film que j'ai vu, c'est donc Robin des Bois, de Michael Curtis. Et pour moi, c'est ça, le cinéma, c'était là où on se bat avec des épées. Voilà. Donc il a bien fallu un jour que je fasse, moi aussi, un vrai film de cap et d'épée. Et voilà, et là, on a parlé déjà de Lubitsch, mais on a parlé de Howard Hawks, enfin... C'est sûr que ça, c'est la fin des années 40, le début des années 50, et ben, c'est l'Amérique qui, pour les cinéphiles qu'on est en train de devenir tous, là, toute cette bande, qui s'est retrouvée dans les années 60 à faire des films. Et il y a une maxime, peut-être ne l'ai-je pas dite, c'est ça, c'est run, 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 une maxime américaine, run, run, run. C'est-à-dire que, en fait, s'il vous plaît, ne nous arrêtons pas, ne laissons pas le spectateur se reposer dans son siège. Alors, le mouvement ne signifie pas la précipitation, mais il faut qu'il y ait quelque chose... enfin, pour moi, je dirais, il faut qu'il y ait quelque chose qui pulse dessous. Alors, ça peut s'emballer et aller vite si on poursuit quelqu'un, mais aussi dans une scène tendre et tout... Le sentiment, quelque chose bas dessous. Et toujours l'homme qui bouge sur le plateau. Mais je me souviens de ce grand ingénieur du son qui s'appelait Pierre Gamet, qui n'est plus là, que nous aimions tous beaucoup, qui a fait beaucoup de grands films français, et qui, je ne sais sur lequel de mes films, disait à un moment donné, non mais là, attendez, il y a quelque chose, attendez, stop, coupez. Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a quelque chose qui, il y a quelqu'un qui tape là. Alors, et c'était moi, en fait, c'est mon pied qui tapait la mesure.
Qu'est-ce qu'il y a là-dedans?
Hein? Utero pour les Smith. Mais qu'est-ce qui? Regardez-moi ça, ils m'ont tout foutu en l'air.
Qui?
Bah, elle est bête, là, les iguanes.
Il y en a beaucoup? C'est vous qui avez planté tout?
Eh oui, c'est moi qui ai tout planté, comme vous dites.
Mais vous les vendez cher?
Quoi?
Eh ben, tous vos fruits, là, vos légumes.
Mais vous prenez tout le temps d'argent, vous, hein? Tiens, les tomates, là. Remettez dans 3 ou 4.
Il n'y a personne d'autre sur l'île?
Non.
Oh, mais c'est des tomates, ça? Mais on n'en voit jamais des comme ça!
Eh oui, c'est ça qui est triste.
Ah, les belles tomates, elles sont dans le sauvage sur cette île tropicale. Le sauvage, et on pense à Raymond Danon, hein, qui avait produit ce sauvage et dont on a appris mercredi la disparition. Très, très grand producteur, hein, qui avait accompagné les débuts de Claude Sauté. Cette séquence était assez extraordinaire d'un point de vue visuel, parce que le spectateur ne s'en rend pas du tout compte. Mais cette île, vous l'avez complètement inventée. C'est un territoire purement cinématographique. Elle n'existe nulle part. Et dans cette séquence, qui est celle du potager, là où il y a les belles grosses tomates que fait pousser Yves Montand, d'un plan à l'autre, on passe de lieux qui sont éloignés géographiquement, les lieux de tournage, de plusieurs milliers de kilomètres. Et ça, c'est la magie du cinéma. Vous reconstituez un espace, comme Orson Welles le faisait dans le procès. On est dans un espace que vous avez créé.
Oui, moi, j'aime faire cela. Une géographie imaginaire. Pour moi, le réalisme n'est pas mon but. Et là, cette île, au fond, qui est le décor principal de ce film, Le Sauvage, et il est composé il y a un puzzle. Au début, c'est quoi ça? Alors, ils sont en train de monter avec des sacs sur le dos. Catherine Deneuve, Yves Montand, ils montent dans la jungle. Jungle qui a été tournée au Venezuela, près de l'embouchure de l'Orénoque. Et il voit son potager qui est ravagé. Alors évidemment, près de l'Orénoque, les grosses tomates, ça ne pousse pas tellement. Et par contre, on a fait ça dans les jardins, ce qu'on appelle les jardins ouvriers de la ville de Saint-Cloud, le long de l'autoroute. Là. Et si on regarde bien le film, on voit à travers les tomates passer des éclairs de lumière. Ce sont les voitures qui filent sur l'autoroute. Et dans l'autre plan... Toujours la même scène, on est aux Bahamas, parce qu'il fallait quand même qu'il y ait de l'eau, enfin la mer, dans cette séquence. Et puis, alors ça fait déjà trois pays là, je crois que ça suffit pour cette séquence.
Un travail extraordinaire de Pierre Lhomme.
Pierre Lhomme, le grand Pierre Lhomme.
À la lumière. Et il y a aussi Yves Montand. Alors voilà, arrive Yves Montand, Catherine Deneuve. Dès le début, dès les premières voix qu'on avait entendues, vous travaillez avec ce qu'on appelle des stars, des vedettes, des grands acteurs. Pour vous, c'est une question de production, c'est-à-dire en ayant des stars, vous aurez plus facilement de l'argent. Ou c'est là encore l'économie du récit. C'est-à-dire, est-ce que vous appliquez ce que Luc Moulet appellera la politique des acteurs quand on fait venir une star dans un film, eh bien le spectateur le connaît déjà, a déjà tout un personnage dans la tête, et donc ça permet d'éviter toutes les scènes d'exposition, par exemple.
Alors là, non, alors effectivement, peut-être aussi, c'est toujours la même histoire, la découverte du cinéma avec le cinéma américain, et donc il y a la cinéphilie, mais aussi l'amour des stars. Alors au lycée, par exemple, vous avez créé assez vite, après un film qui s'appelait La Reine de Broadway, je crois que ça s'appelait Cover Girl, quoi, en Amérique, avec Rita Hayworth. J'avais créé le Hayworth Club. Voilà. Et enfin, bon, je ne vais pas raconter ça. C'est trop, enfin, l'anecdote est trop longue. Elle était venue à Paris, j'étais allé à Paris, elle attendait devant son hôtel, les vues deux minutes, et elle est censée essayer de lui dire quelques mots. J'ai toujours sa photo dédicacée. Bon, alors bref, enfin, pour moi, le cinéma allait avec l'idée du cinéma, c'était avec les stars. Donc, évidemment, j'aurais eu du mal à... bon, on ne va pas dire des bêtises sur les acteurs français. Enfin, ou sur les gens qui n'étaient pas des acteurs. Non, pour moi, effectivement, enfin, c'est quand même un cinéma. Enfin, ce sont des films très joués. Très joués. C'est pas pour rien que je me suis... Alors on va en reparler quand même à un moment donné de Cyrano. Mais avant d'aimer le cinéma, j'aimais beaucoup le théâtre. J'avais découvert le théâtre beaucoup plus tôt, quand j'étais vraiment enfant, presque. Et donc, les grandes voix... Enfin, voilà, on a dit ça tout à l'heure aussi, les grandes voix qui se répondent, le fait de ne pas louper une syllabe... C'est ça que j'aimais, c'est Catherine Deneuve, par exemple, enfin que j'aime toujours. Je la vénère. Bon, c'est que elle parle très vite, mais on ne perd rien. On ne perd rien. Et bon, alors. Et puis, ce qui me fait plaisir aussi dans cette petite scène du sauvage qu'on vient d'entendre, c'est que on pourrait avoir le sentiment, que dans ce qu'on s'est dit tout à l'heure, que mes films s'emballent tout le temps. Mais en fait, il y a des moments de calme. Il y a des moments de calme qui donnent. qui prennent leur valeur après, justement, toutes ces... la frénésie qui, quelquefois, s'empare de l'action.
Die Indexziffer der Abweichungsschwelle der dänischen Krone und der deutschen Mark in Bezug auf den Achsenkurs, den wir uns bei unserem Abkommen vom 4. und 5. Dezember
1990.
Écoute, j'ai pas le temps de lui parler.
Elle dit que c'est urgent.
Et demandez-lui ce qu'elle veut.
À propos d'un immeuble, j'ai pas bien compris. Elle est en train de le vendre, ou plutôt votre père. Enfin, je
où est le téléphone? Excusez-moi, hein. Allô, mamie?
Ah, Pauline, ma chérie.
Qu'est-ce qui se passe?
Oh, ton père a trouvé des gens qui veulent acheter l'immeuble. Il est arrivé ce matin comme un fou.
Calme-toi, calme-toi. Je rentre après-demain, je vais rester avec lui.
Mais ce sera trop tard. Il dit qu'il faut signer dans la journée.
Tu n'as qu'à lui dire non, un point, c'est tout. Il a attendu 20 ans, il peut attendre 2 jours.
Il est déjà parti chez le notaire.
Mais sans toi, il peut rien faire.
Et si, justement? Je lui ai donné une procuration.
Oh non, tu n'as pas fait ça. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu es devenue folle ou quoi? Mais ne crois pas un mot de ce qu'il dit. Il peut faire n'importe quoi avec une procuration. Arrête ça tout de suite. Tu vas courir chez le notaire.
Mais je ne peux pas avec ma jambe.
Appelle Madame Chapeau, elle va t'accompagner. Où est-il ce notaire?
Rue du Faux.
Rue du Faux? Bon, c'est à la Madeleine. Prenez le métro, c'est direct, ça ira plus vite.
Mais je n'ai pas de ticket.
Oh écoute, je sais pas moi. Appelle un taxi, débrouille-toi. Enfin, mamie, tu ne comprends pas. Il est en train de te plumer. Rappelle-toi ce qu'il a fait à ton tarlette. Tu vas te retrouver sur la paille sans un sou et tu finiras dans un asile et ce sera ta faute. Tu le...
Voilà, nous avons intentionnellement gardé ce silence parce que nous sommes dans tout feu, tout flamme. Isabelle Adjani donc vient de parler à sa mère au téléphone, sauf que tout le monde l'entend parce qu'elle est dans une cabine de traduction, dans une réunion internationale. Et là, nous avons voilà, la réaction des gens qui l'écoutent. C'est Isabelle Adjani qui était venue vous chercher pour faire ce film, Jean-Paul Rappelon.
Oui, alors c'est la suite du Sauvage. Et là, on retrouve l'école des bonnes parleuses. C'est-à-dire que Le débit n'est pas loin de celui de Catherine Deneuve dans Le Sauvage, parce que Isabelle peut tout faire, et ou lentement ou rapidement. Et elle avait vu à la télévision quelque temps, enfin elle avait vu le Sauvage à la télévision, et ça lui avait un dimanche soir là, quand c'était passé pour la première fois sur la première chaîne, comme on disait, Et elle m'avait appelé le lendemain en se présentant, voilà, c'est exactement ce que je veux faire maintenant, le genre de personnage que je veux faire, le genre d'histoire. Je ne veux pas être cantonné dans des personnages lugubres, m'avait-elle dit.
Alors bon. Effectivement, là, vous allez libérer un potentiel comique qu'on ne connaissait pas chez Isabelle Adjani. Alors, je me demande, quand vous choisissez des acteurs de cette trempe, est-ce que vous faites comme certains cinéastes qui disent la direction d'acteur, c'est le casting, une fois qu'on a trouvé les acteurs, il n'y a plus rien à faire, ou est-ce que vous les dirigez au millimètre comme vous écrivez vos scénarios? Parce que chez vous, on n'entend pas là à la radio, mais il y a toute une gestuelle, il y a des mouvements qui expriment beaucoup de la complexité des personnages en général dans vos films.
C'est ça, c'est la fameuse phrase de Romain Gary. La grâce, c'est le mouvement. Alors, et moi, je travaille beaucoup en amont sur le mouvement que je voudrais imprimer à telle scène et sur le mouvement, ça veut dire en fait beaucoup le déplacement des acteurs, enfin, c'est ce qu'on appelle la mise en scène et le déplacement des acteurs et la caméra qui respire que dans le rythme de leurs sentiments. Mais par contre, quand ce mouvement est déterminé, j'y pense beaucoup avec ma script girl avec laquelle je fais le découpage avant, dans les décors, je joue même un peu la scène, je l'imagine, je l'improvise. Et puis ensuite, mais après cela, avec les acteurs, il me semble que quand le mouvement est juste, en fait, celui que je leur suggère, bah vous vous levez, vous allez vers la fenêtre, vous l'ouvrez, et puis là, brusquement, je dis n'importe quoi là. Et en fait, une fois que le mouvement est trouvé, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Je n'aime pas couper les cheveux en quatre dans leurs sentiments, dans ce que ça représente, dans ce que... Ça, c'est le mouvement l'exprime. Isabelle Adjani, donc, en voyant le film, voit que... Enfin, en tout cas, qu'elle allait... Alors, ce ne sont pas des films de poursuite. Enfin, c'est quand même l'art de la fugue. L'art de la fugue. Et souvent, c'est la femme qui s'enfuit, qui fuit l'homme. Et il y a aussi le contraire. Enfin, je disais que Catherine Deneuve, je m'en avoue, était l'actrice française la plus rapide sur 100 mètres. Et dans Le Sauvage, quand Yves Montand la poursuit, la première fois qu'on tourne cela sur un ponton aux Bahamas, et Montand vient vers moi, il me dit, Yves Montand vient vers moi, le grand Yves Montand, moi j'ai envie de dire le grand pour tous ces acteurs qui m'ont fait l'honneur de travailler avec moi, et vient me dire, vous pourriez pas lui dire de courir un peu moins vite, parce que là, je n'arrive pas à la rattraper. Et si je ne la rattrape pas, il faut changer la fin du film, parce que c'est une autre action qui commence.
Où en étais-je? Je ne sais tout ceci. Pardonnez mon émoi. C'est si délicieux. C'est si nouveau pour moi.
Si nouveau?
Si nouveau, mais oui, d'être sincère. La peur d'être raillé toujours au cœur me serre.
Raillé de quoi?
Mais d'un élan. Oui, mon cœur toujours de mon esprit s'habille par pudeur. Ah, l'esprit, je le hais dans l'amour. C'est un crime lorsqu'on aime de trop prolonger cet escrime. Le moment vient d'ailleurs inévitablement. Et je plains ceux pour qui ne vient pas ce moment où nous sentons qu'en nous, un amour noble existe, que chaque joli mot que nous disons rend triste.
Eh bien, si ce moment est venu pour nous deux, quel mot me direz-vous?
Tous ceux qui me viendront, je vais vous les jeter en touffe, sans les mettre en bouquet. Je vous aime, j'étouffe, je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop. Et ton nom dans mon cœur a l'écho d'un sanglot. De toi, je me souviens de tout, j'ai tout aimé. Je sais que l'an dernier, un jour, le 12 mai, pour sortir le matin, tu changeas de coiffure. Un soleil m'éblouit, c'était ta chevelure. Comprends-tu à présent? Enfin, te rends-tu compte? Sens-tu mon âme un peu dans cette ombre qui monte? Oh, mais vraiment, ce soir, c'est trop beau, c'est trop doux. Je vous dis tout cela, vous m'écoutez, moi, vous, c'est trop. Dans mon espoir, même le moins modeste, je n'ai jamais espéré tant. Il ne me reste qu'à mourir maintenant. C'est à cause des mots que je dis qu'elle tremble entre les bleus rameaux. Je sens le tremblement adoré de ta main descendre tout le long des branches du jasmin.
Oui, je tremble et je pleure. Je t'aime. Je suis tienne et tu m'as enivré.
Alors que la mort vienne, cette ivresse, c'est moi. Moi qui l'ai su causer. Je ne demande plus qu'une chose.
Un baiser.
Hein? Quoi? Vous demandez?
Oui, je...
Tu vas trop vite. Puisqu'elle est si troublée, il faut que j'en profite.
Oui, j'ai demandé, c'est vrai.
Mais juste cieux.
Je comprends que je fus bien trop audacieux. Alors...
Non.
Ce baiser, ne me l'accordez pas.
Pourquoi? Tais-toi, Christian!
Que dites-vous tout bas?
Mais d'être allé trop loin, moi-même je me gronde, je me disais... Tais-toi, Christian!
Une seconde! Obtiens-moi ce baiser! Attends!
Alors là, effectivement, on n'est plus dans le même rythme, Jean-Paul Rapneau. Nous sommes, c'est après le grand Montand, l'immense Gérard Depardieu. C'est évidemment Cyrano de Bergerac. Alors, ce film est marquant pour plusieurs choses, mais pour vous, c'est aussi une première. C'est le premier film dont vous n'avez pas inventé l'histoire et écrit l'histoire de bout en bout. Vous adaptez un texte qui est déjà là. Et quel texte? Vous le faites avec Jean-Claude Carrière. Et il y a cette rythmique particulière et peut-être difficulté supplémentaire pour vous, c'est le rythme de l'alexandrin. Est-ce que pour vous, il s'agit de prosaïser ces alexandrins, de faire comme si ça n'en était pas? Et c'est pas ce qu'il me semble, parce qu'on entend cette musique particulière. Et est-ce que ça influe sur votre mise en scène, ce rythme même?
Oui, alors... Et finalement, l'alexandrin, il y a une rythmique. Il y a donc ces 12 pieds, ces 12 syllabes. Et merci d'avoir remarqué que tout est respecté dans ce qu'on vient d'entendre. Et Gérard Depardieu, dont on pensait, on me dit, mais lui-même disait d'ailleurs, ah non, il n'a jamais dit ça. C'est d'autres acteurs du film qui finalement ensuite se sont repris, qui me disaient, mais non, on dira ça, mais c'est comme de la prose. Mais non, parce que si on... Ces vers-là, ces 12 pieds-là, si on les entend trop, ça n'ira pas, mais si on ne les entend pas, ça n'ira pas non plus. Donc ils ont essayé de trouver. On les entend sans les entendre, on les sent, et il y a quelque chose là aussi qui pulse. Il y a le chiffre 12 qui est là pendant tout le film, qui swing aussi, oui. Mais ça a été très, très intéressant, justement pour moi, très intéressant. Et bizarrement, il n'y avait dans cette troupe que des gens qui venaient du théâtre, que des acteurs, des actrices qui venaient du théâtre. Anne Brochet, qu'on vient d'entendre, une voix merveilleuse que j'ai choisie pour sa voix qui me faisait trembler, moi, quand j'entendais, quand on a fait des essais, que j'entendais cette voix, j'avais les frissons. Et il n'y avait que des acteurs de théâtre qui avaient déjà justement joué des pièces en vers. Et un seul n'avait jamais joué quelque chose de ce genre, c'était Gérard Depardieu. Et pourtant, c'est lui qui a trouvé vraiment le moyen le mieux d'apprivoiser ces vers-là et de respecter justement les E muets, ces fameux E muets qu'il faut entendre. J'ai oublié là. Je voulais réciter une scène et puis voilà que c'est trop loin maintenant. Bon, mais alors, j'aurais dû amener le livre.
Dans votre travail d'adaptation avec Jean-Claude Carrière, vous en faites un film épique, un film d'aventure, un film de cap et d'épée, mais aussi vous faites intervenir un personnage qui, autant que je sache, n'est pas dans la pièce de Rostand, c'est un enfant. C'est un enfant spectateur qui va regarder Cyrano de loin, qui va le croiser, qui va le dessiner même sur les murs de sa chambre. Oui, et ces figures de spectateurs, il y en a beaucoup dans vos films. Il y en a dès La vie de château, quand Catherine Deneuve revient chez son père, Pierre Brasseur, il se passe toute une scène, il y a des paysans à table qui observent la scène comme des spectateurs. Dans les Mariés de l'an 2, il y a le bal des aristocrates chouans et vous avez des paysans sur les côtés qui le regardent. Et ce personnage du spectateur est très souvent là.
Ah, là très, très finement remarqué. Oui. Alors évidemment, je vais dire que ce n'est pas exprès. Et pourtant, tout ça, c'est... Excusez-moi, c'est malgré moi. Mais... Il y a un travail quand même sur les situations. Je ne vise pas au réalisme. Et quand on est dans une cocasserie inattendue, rien n'est mieux à ce moment-là qu'un regard de spectateur, d'un homme qui n'est pas dans le coup. Et l'enfant, alors il y a d'ailleurs aussi un enfant dans La vie de château, enfin il y en a dans beaucoup de mes films, mais surtout, il y en a un donc au début de Cyrano, j'ai hésité beaucoup, moi, à accepter de faire ce film, puisqu'on me l'a proposé. En fait, c'est pas moi, au départ, qui avait cette idée. Ça me paraissait presque impossible que le cinéma s'empare de cela. Et puis, je me suis souvenu que c'était une des premières pièces, sinon la première, une des premières pièces que j'ai vues jouer quand j'étais vraiment enfant, 7 ans, 7 ou 8 ans. Et que quand j'ai vu cette pièce, là, j'étais venu à Paris avec ma mère, elle m'avait emmené à Paris pour aller à la Comédie Française pour voir cette pièce. Donc ça a été une expérience très importante pour moi. Et je me suis dit qu'un film était possible quand j'ai pensé que ça pouvait commencer justement par cet enfant, que ça serait raconté au fond par cet enfant. On a même hésité avec Jean-Claude Carrière à écrire une voix off à la manière de Rostand. Comme si l'enfant qui découvre Cyrano dans les premières minutes du film l'accompagnait tout au long de sa vie, racontait ce qui s'était passé tout au long de sa vie, lui. Et de la. Voilà. Bon, finalement. Mais voilà. Et alors, évidemment, cet enfant, évidemment, c'est moi. C'est moi. Enfin, c'est moi. Il me représente à l'époque où j'ai vu cette pièce et j'ai découvert ce personnage.
Oh, qu'est-ce que vous faites là? N'approchez pas, restez où vous êtes.
Non, ne craignez rien, écoutez-moi.
Oui, ben je vous entends là, c'est bon, pas la peine de souffler dans la figure.
Bon, le chemin là en face, vous savez où il va?
Ben, il retombe sur la grand-route.
La grand-route de quoi?
La grand-route de tout, on va où on veut. Mais je vous conseille pas, vous allez vous faire pincer par les dragons.
Et là-bas de l'autre côté?
Ça vous mène à Sorbier. Et là-bas non plus, je vous conseille pas, hein. Ils ont tous passé l'arme à gauche. Têtus comme du bois, ils ont pas voulu du remède.
Quel remède?
Ben, le mien, pardi, mon élixir, vous en voulez? C'est rien que des plantes et je vais les chercher loin. Ah, j'en ai sauvé du monde avec ça.
Vous le vendez?
Ben évidemment, vous voulez pas que je le donne, non? 3 francs. Est-ce que ça compte quand on a le feu au cul? Oh, remarquez, j'en ai donné une fois ou deux. Mais ça n'a pas marché. Il faut payer pour que ça agisse. C'est comme pour tout. Tenez.
Bon, je vous l'achète et j'ajoute 10 francs. Nous allons vers Gap. Dites-nous pas où passer pour être tranquille.
Oh, mais Gap, c'est loin, hein? Ça vaut bien 2 louis.
Trop, n'acceptez pas.
C'est d'accord.
À la voix de Jean-Yann dans le vent, c'est quand même quelque chose. Avec lui, c'est évidemment Olivier Martinez et Juliette Binoche. On est dans le Hussard sur le toit, alors autre monument de la littérature française, adapté par vous. Mais alors adapté, on n'est pas en Roumanie comme dans Les Mariés de l'an 2, on n'est pas en Hongrie comme pour Cyrano. Là, nous sommes dans les grands espaces provençaux, sur les lieux de l'action même du roman, avec, alors on a parlé de Lubitsch, on a parlé de Hawks, mais là on est quasiment dans le western. Alors Anthony Mann, Charlotte Garçon.
Mais oui, parce que vous disiez que ça vous paraissait presque impossible que le cinéma s'empare de Cyrano, mais quand on connaît un peu l'écriture de Giono, sa puissance poétique et parfois presque une stylisation qui va vers l'abstraction, tout en étant très, très imagé, on se dit que voilà des textes inadaptable a priori. Donc comment est-ce que vous avez dénoué tout ça et que vous l'avez réinscrit dans un paysage qui lui est vraiment le paysage de Giono? J'ai eu peur quand vous parliez du sauvage et de l'île reconstituée avec différents pays que vous nous disiez la même chose pour le Hussard et ça aurait été une déception pour moi. J'ai cru reconnaître certains paysages de Haute-Provence. Donc
tout est tourné en France. Au début on a commencé à me dire, mais en France, ça coûterait très cher, donc il faudrait pouvoir tourner ailleurs, dans un pays moins cher, en Slovénie. Mais j'ai dit, mais attendez, le Hussard sur le toit. Enfin, la Provence fait partie, c'est dans le sujet, c'est un personnage. Enfin, une Provence, d'ailleurs, chez Giono, comme vous disiez, presque abstraite, quand même limite imaginaire. Comme lui, un peu, c'est ça, cette Provence-là, bien que composée uniquement d'éléments de paysages provençaux, il y a une partie de la scène qui commence aux environs de Beaucaire, et puis qui se termine à la fin de la scène, quelques secondes plus tard, on est à 300 km de là. Enfin, on a parcouru tout le sud français, et dans le film, c'est on peut dire presque un hommage à un sud qui n'existe plus, quoi, puisque là, on est au milieu du 19e siècle. Enfin, j'ai entendu la voix de Jean-Yann, qui disait qu'il veut essayer de leur vendre un élixir, et qui dit, on était très content de cette réplique avec Jean-Claude Carrière, c'est une réplique de Jean-Claude, il faut payer pour que ça agisse, c'est comme pour tout. Cette allusion masquée à la psychanalyse nous faisait rire beaucoup. J'ai pas le droit de dire ça. Si, peut-être. Il faut payer pour que ça agisse.
C'est la lumière du Sud, ce sont les paysages du Sud. Mais alors, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que c'est aussi une lumière du Nord. C'est-à-dire que vous, avec Thierry Arbogast, votre chef opérateur sur ce film, hein, vous n'êtes plus avec Pierre Lhomme, il y a un travail pictural qui est sidérant. Et il y a notamment des moments, c'est du Vermeer. C'est-à-dire, je pense à la scène finale où Pauline écrit à Angelo. La lettre, elle est éclairée par la fenêtre à l'extérieur. Et là, vous avez créé un tableau de Vermeer.
Oui, c'est drôle ce que vous dites, parce que... Enfin, c'est drôle. C'est finement vu, une fois de plus. Alors, effectivement, il était question d'écrire une lettre. C'était un plan très, très, très facile, très court. Elle écrit la lettre et elle est devant une fenêtre. Et on est dans un je ne sais quel château du sud de la France. Et elle a cette robe bleue. Et alors on dit, je demande à Thierry, qu'est-ce qu'on fait, comment vas-tu faire? Bah t'inquiète pas, je mets un projecteur derrière la fenêtre. Bon bah d'accord, ok. Alors ils mettent leur projecteur, et puis bon, alors bah, très bien. Alors, et je regarde dans l'objectif, et je dis, ah, encore un tableau. Et effectivement, c'était avec cette lumière de la fenêtre qui n'était pas là il y a quelques minutes et qui brusquement l'éclaire, elle, dans sa robe bleue. Ben oui, on avait fait un Vermeer sans s'en rendre compte. Mais ça a souvent été le cas à cause des lieux et des costumes merveilleux de Franca Squarciapino. I'm in love with my dream. Please don't wake me up. Don't you? I'm in love with my dream, and my dream is true. Oh, please don't you do it. Oh, please don't you do it. Please
don't you do it, 'cause my dream is true.
Alors, on parlait de rythme, hein, et bien vous l'aurez reconnu, c'est Yves Montand qui poussait la chansonnette dans Tout feu, tout flamme. Merci beaucoup Jean-Paul Rapneau. Comme Yves Montand, nous sommes amoureux de vos rêves. Hein. I'm in love with your dreams. On peut les voir, ces rêves, en coffret DVD et en Blu-ray chez Pathé en version restaurée pour les 6 premiers. Et puis chez ARP Sélection pour Bon Voyage et Belle Famille. Mais pour l'heure, il est temps de partir sur les traces de Carlota Valdés à la poursuite de l'impossible répétition des amours perdus.
I want you to follow my wife. I'm afraid some harm may come to her.
I'm supposed to be retired. I don't want to get mixed up in this darn thing. I have acrophobia, which gives me vertigo, and I get dizzy.
Do you believe that someone out of the past, someone dead, can enter and take possession of a living being?
Carlota Valdés was what? Your wife's grandmother?
Great-grandmother.
That explains it. Anyone could become obsessed with the past. Has this ever happened to you before?
Listen, what is this? What do you want?
I just want to know who you are.
Does that remind you of her?
One final thing I have to do. Then I'll be free of the past.
Elle est complètement survitaminée, cette nouvelle bande-annonce de Vertigo, alias Sueur Froide, c'est comme ça qu'il s'appelait, hein, quand il était sorti en France la première fois. Le Forum des Images au Hall à Paris vient de fêter ses 30 ans. On lui souhaite encore de belles années, même si sa situation actuelle est pleine d'interrogations. Mais le Forum fête aussi un autre anniversaire de 60 ans, celui-là, les 60 ans du chef-d'œuvre d'Hitchcock, sorti donc en 1958, un sexagénaire toujours aussi fécond, tant il infuse de manière revendiquée ou inavouable nombre de films qui, puisqu'ils placent la répétition en leur cœur, répètent eux-mêmes le geste inaugural du bon Alfred. C'est ce que raconte cette programmation Vertigo Replay. Carlota, pardon, Charlotte.
Oui, vous connaissez les trois phrases célèbres de Beckett. Essaie encore, échoue mieux. Hein, et ces phrases pourraient servir de mantra à cette très belle programmation de 40 films qui propose d'explorer un motif à la fois narratif et esthétique absolument fondateur du cinéma moderne. Alors, tout spectateur de Vertigo se souvient alors de beaucoup de scènes, mais d'une scène assez extraordinaire de baiser où Scotty James Stewart croit reconnaître dans la rue le sosie de la femme blonde, élégante, qu'il a aimée et qu'il a vue mourir, Madeleine, en la personne d'une espèce de jolie pépée brune, bien roulée, trop maquillée. Alors il la séduit, cette Judy, il lui explique son trouble et il la convainc de se laisser coiffer, maquiller comme une poupée pour revêtir exactement l'apparence de Madeleine au chignon près. Ils sont dans la lumière verdâtre de la chambre d'hôtel et leur étreinte provoque une sorte un mouvement d'appareil circulaire absolument étourdissant qui fait réapparaître pour Scotty autour d'eux le décor dans lequel il avait auparavant embrassé Madeleine. Et cette répétition-là, qui est à la fois sensuelle et je dirais quand même glaçante, désigne là le montage de cinéma comme, le moyen royal, la voie royale du fantasme. C'est-à-dire que tout à coup, au XXe siècle, par le montage, on s'approche d'une sorte de restitution au plus proche de l'obsession, de ce qui anime ces héros mélancoliques. Donc Vertigo, c'est aussi, bien sûr, vous l'avez dit, un film qui impose la répétition aux autres, autour de lui. La répétition, d'abord, je pense, parce qu'il nous force à revenir le voir et qu'on ne le voit pas de la même façon quand on le revoit une deuxième fois, puisqu'on voit sa première partie de manière complètement différente quand on connaît l'identité, je ne révèle rien, l'identité de Madeleine et l'identité de Judy. Et Hitchcock est un grand directeur de spectateurs autoproclamé, donc il a bien sûr aussi rêvé, je pense, que certains spectateurs tombent dans une spirale, un envoûtement proche de celui de son personnage. Et de fait, j'entendais dans une émission rediffusée la nuit sur cette antenne que le critique Michel Cazenave racontait qu'il y était allé à sa sortie 35 fois voir ce film parce qu'il y avait des cinémas permanents et qu'il pouvait donc y aller pendant une semaine de 14h à 24h. Et moi d'ailleurs, j'ai toujours pensé que j'allais revoir surtout les mélodrames, ce que peut être Vertigo au cinéma, dans l'espoir un peu enfantin, peut-être infantile, peut-être fou, que la fin allait changer. quand on a à force, peut-être que le film changeait à chaque vision. Mais Vertigo, bien sûr, marque aussi du sceau de la répétition les films qu'il a inspirés, par exemple La Jetée de Chris Marker en 1963, qui est un court-métrage assez astucieusement programmé dans ce programme avec Je t'aime d'Alain Resnais, son film de 1968. Et comme les personnages des deux films, en fait, sont victimes d'expériences scientifiques sur leur cerveau, et du coup, ils arrivent à voyager dans leur propre passé amoureux, celui de La Jetée. Je cherche, vous vous souvenez, l'image d'une femme sur la jetée d'Orly qui l'obsède. C'est Hélène Châtelain, mais en fait, beaucoup des exégètes de Chris Marker ont souvent rapproché cette actrice de Kim Novak de Vertigo. Et ce n'est pas un hasard si Chris Marker a vu le film des dizaines de fois et a écrit aussi sur ce film. Et puis, il y a évidemment plein d'autres films sortis de la cuisse de la petite Madeleine, si j'ose dire, comme Body Double de Brian De Palma, une sorte de relecture très, très capiteuse, comme ça, de cette pulsion voyeuriste de James Stewart dans le Los Angeles des années 80. Et puis derrière ce film, j'allais dire parfois loin derrière, tout un cinéma de genre, en particulier les films de tueurs en série. On peut trouver une... Pourquoi est-ce que le cinéma est fasciné par des tueurs en série? Peut-être parce que leur rituel macabre explicite finalement la nécrophilie latente mais omniprésente dans le cinéma d'Hitchcock.
It is happening again. It is happening again.
On entend Twin Peaks, le Forum des images ne rediffuse pas toute la série, mais d'autres films de David Lynch. Hein, c'est vraiment le cinéaste par excellence de la répétition, qui réfléchit dans ses films à ce que c'est que la répétition. Dans Twin Peaks, ou dans le film qu'il a tiré, Fire Walk With Me, de cette série, en fait, à force de répéter des petits détails qui au départ sont assez banals, assez quotidiens, des petites routines, des petites bizarreries des habitants de cette petite ville imaginaire, eh bien, en fait, l'air de rien, ces répétitions créent un monde, créent tout un univers dans lequel on accepte, nous, spectateurs, de vivre et dont on accepte les règles qui sont proches quand même du conte merveilleux. Et c'est vraiment au cœur de cette création-là que les différents films de cette programmation proposent de plonger. Avec David Lynch, on fait l'expérience de la convergence entre le montage de cinéma et les fonctionnements psychiques les plus complexes, notamment ceux qui organisent le rapport entre l'état de rêve et l'état de veille. Mais on voit bien qu'il y a des cours, des conférences dans la programmation qui réfléchissent sur la répétition presque de manière théorique. Et David Lynch est un bon client, entre guillemets, pour ça. Mais ça n'empêche pas d'aller voir des films extrêmement divertissants, comme Un jour sans fin de Darold Ramis, que je peux voir vraiment et revoir sans m'enlacer. C'est un film de 93 dans lequel Bill Murray est une sorte de grincheux présentateur de météo qui se retrouve coincé pour cause de tempête de neige dans une petite bourgade qui ressemble un peu à Twin Peaks, où il était parti en reportage, et il tombe dans une faille temporelle. C'est-à-dire qu'il revit chaque jour, le même jour, matin après matin. Alors évidemment, il y a des effets burlesques impayables, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de vertige existentiel, et un ivrogne du coin au bar lui dit, mais il parle à un ivrogne du coin, et il lui dit, tu te rends compte, je suis coincé, enfin, tu imagines si tu revivais le même jour, et que tu étais coincé ici, et le type lui dit, bah oui, en fait, là, tu viens de résumer ma vie, en fait. Et c'est, voilà, il y a des moments comme ça de vertige, sans jeu de mots, avec le film d'Hitchcock, dans des films qui sont a priori pas des films théoriques. Et quand on demandait au scénariste de ce film Un jour sans fin comment il avait eu l'idée assez simple de ce paradoxe temporel, il disait j'ai pris des cours d'écriture de scénario et il y avait une phrase qu'on nous disait, il y avait une interdiction, c'était éviter absolument les répétitions.
Merci Charlotte, on se quitte sur cet entêtant I Got You Babe de Sonny and Cher, et on comprend que Bill Murray devienne dingue à force de l'écouter en boucle dans Un jour sans fin. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Bruno Gagnère-Fontani. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somanina. Vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Une vie, une œuvre, présentée par Christine Bernard.
But at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. With me.